Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Salut à tous. Soyez les bienvenus, c'est l'Intégral Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Stephen Brun qui m'accompagne tout au long de la semaine. Salut Stephen.
Bonsoir Benoît, bonsoir tout le monde.
Comment ça va, t'es en forme?
En pleine forme.
Malgré la pluie, tout va bien.
La pluie, bon, ça s'est vite arrêté à 14h, hein, la pluie sur Paris. Mais ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur.
Ah,
ça
oui.
fait du bien. On pense aux agriculteurs qui avaient besoin de pluie.
Évidemment.
On pense aussi à nos amis du Pilat là-bas, sur le bassin d'Arcachon, qui ont besoin de pluie aussi, qui ont besoin de soutien. Donc un peu de fraîcheur, ça fait du bien.
Tout à fait. Et on a un invité exceptionnel. Dans un instant, Stephen, il nous attend. C'est Esteban Ocon, pilote français de l'écurie Alpine, pilote de Formule 1 évidemment, à 4 jours du Grand Prix de France. Esteban qui va nous parler de tous les sujets évidemment, notamment sa bonne forme actuelle, lui qui reste sur une 5e place au Grand Prix d'Autriche. À 18h15, retour sur le premier match de préparation du PSG au Japon. Les Parisiens ont battu le Kawasaki Frontal 2-1 devant plus de 60 000 personnes. À 18h30, on va revenir sur la 17e étape du Tour de France avec la victoire de Tadej Pogacar qui n'a eu aucune incidence au classement général puisque Jonas Vingegaard, le maillot jaune, a terminé dans sa roue. Et puis à 18h40, Eugene, c'est notre petit rendez-vous de la fin d'Intégral Sport, évidemment, les championnats du monde d'athlétisme aux États-Unis. On va dresser le portrait ce soir d'Alice Finot. Elle est en finale du 3000 mètres steeple. Et pourquoi pas, on en fait un outsider pour cette finale parce qu'elle a une progression fulgurante. Elle a amélioré 3 fois le record de France en moins de 2 mois. C'est parti pour l'Intégral Sport. Et on vous le disait, le grand moment est arrivé. Le Grand Prix de France de Formule 1 aura lieu dimanche sur le circuit du Castellet. C'est la 12e manche du championnat du monde. Invité exceptionnel dans l'Intégral Sport, Esteban Ocon, qui est 8e justement au classement des pilotes, qui est en direct avec nous. Salut Esteban.
Bonsoir Benoît, bonsoir tout le monde.
Salut.
Sois le bienvenu Esteban sur RMC, on est ravis de t'accueillir. Question toute simple pour démarrer, comment on se sent à 4 jours d'un Grand Prix national comme ça à la maison?
Merci beaucoup de m'accueillir. Mais oui, je me sens très bien. Je suis actuellement dans le paddock. Voilà, on commence les premiers préparatifs pour le week-end. Il fait super beau. Voilà, tout est quasiment prêt. L'organisation a fait un super travail pour organiser notre Grand Prix à la maison. Donc tout est au top pour l'instant.
Tu considères ce Grand Prix comme le rendez-vous le plus important de l'année pour toi?
Pour moi, oui. Après, ça compte les mêmes points forcément, mais oui. C'est un Grand Prix que j'attends depuis très très longtemps. C'est sûr que j'ai loupé un Grand Prix en 2019. J'ai pas pu rouler à l'époque là-bas, mais pour nous, ouais, c'est super spécial pour moi de rouler à la maison, de rouler devant mes supporters, et puis j'espère que voilà, on aura un bon week-end avec plein de succès comme on l'a eu récemment.
Alors surtout qu'il arrive en confiance, Esteban, après son bon résultat en Autriche et cette 5e place. Je vais t'envoyer dans la polémique tout de suite, Esteban. ce Grand Prix de France du Castellet, on sait qu'il est en suspense pour les années qui suivent.
Le contrat se termine à la fin de saison.
Exactement. On sait qu'il y a pas mal de nouveaux circuits, Miami cette saison, Vegas en 2023. Toi, en tant que pilote, t'es un authentique, t'as envie qu'on garde ces circuits historiques ou t'aimes bien découvrir des nouveaux circuits dans des nouveaux endroits?
Non, c'est clair que j'entends beaucoup de choses à propos du Grand Prix de France, beaucoup de rumeurs comme quoi ça sera compliqué pour la suite. J'ai eu quelques discussions et puis j'ai eu aussi des déclarations de la part de la Formule 1 comme quoi ils cherchaient des solutions pour un futur Grand Prix de France, potentiellement dans une ville, ce qui peut être quelque chose aussi très intéressant. Donc la France a une place hyper importante dans le sport automobile. On a les plus belles marques d'automobiles. On a eu des pilotes exceptionnels par le passé et ça s'appelle Grand Prix partout où on va dans le monde. Donc c'est hyper important qu'on ait notre Grand Prix de France. Mais oui, pour répondre à la question, c'est clair qu'il y a des belles pistes maintenant qu'on découvre, mais c'est pas une raison. Les pistes historiques comme Monaco, comme Spa, comme le Paul Ricard par exemple, ces pistes-là doivent rester dans le calendrier ou alors il faudrait trouver des solutions pour alterner. Ça c'est mon avis, pour alterner d'une année à l'autre, ouais. Et garder quand même l'histoire de la Formule 1.
Ça serait une possibilité d'ailleurs, hein. C'est
une année sur deux,
des nombreuses solutions, pourquoi pas évoquer, alterner entre la France, pourquoi pas, et la Belgique, voilà, une année sur deux. Mais c'est vrai que nous, la réflexion qu'on a en tant que fan de Formule 1, Esteban, c'est la tristesse de voir ces Grands Prix historiques mis de côté au profit de Grands Prix qui pour nous
au profit de l'oseille, Benoît.
Un peu moins d'intérêt, voilà, un deuxième Grand Prix aux États-Unis après Austin, Miami. Qu'est-ce que vous allez aller faire à Las Vegas? C'est ça la question qu'on se pose, Esteban.
Oui, c'est clair. Après, ce sera quand même un très grand show. Hein. Las Vegas, c'est clair que l'année prochaine, de prendre des vitesses à 370 km/h au milieu de la ville de Las Vegas, ça fait quand même rêver, mais Monza aussi à 370 km/h, ça fait rêver devant tous les tifosi, devant devant tout ça. C'est des pistes historiques quand même qu'il faut qu'on garde par la suite. C'est clair que c'est hyper sympa, voilà, de découvrir des nouveaux endroits, et puis il y a de plus en plus de fans, beaucoup de demandes en Formule 1 en ce moment. Le sport se porte très très bien. Donc forcément, quand il y a de la demande, on peut pas aller dans tous les pays du monde tout le temps, parce que on n'a qu'une équipe de mécaniciens, une équipe d'ingénieurs, et au final, on est limité par ce qu'on peut faire. On peut pas être partout à la fois.
Évidemment. Je rappelle qu'il y a un engouement populaire tout de même autour de ce Grand Prix de France. C'est dimanche sur RMC. Il y a plus de 200 000 spectateurs qui sont attendus sur le week-end. Ça démarre vendredi, ça termine dimanche. Est-ce que tu le ressens, toi, ce soutien particulier, très poussé? Vous êtes deux pilotes français. Il y a Pierre Gasly et toi. Est-ce que tu te sens justement porté par un engouement populaire cette semaine?
Oui, c'est un truc de fou. Et honnêtement, voilà, je tiens à remercier tout le monde qui me soutient. Je vais avoir ma tribune pour la première fois de ma carrière au dernier virage du Paul Ricard. Donc j'ai hâte de voir tout le monde là-bas qui met le feu, qui met l'ambiance. Et c'est quelque chose que je vais voir moi dans la voiture. Donc c'est juste super qu'on puisse partager des moments avec toutes ces personnes, partager notre passion. C'est top pour l'instant. Tout se passe super bien. J'ai hâte de voir tout le monde ce week-end.
18h07 sur RMC, vous écoutez Intégral Sport, on est là avec Stephen Brun, on a un invité exceptionnel, Esteban Ocon, qui est donc en direct avec nous. Esteban, on le disait, ta saison est très bonne hein, pour l'instant, tu as fait 8 fois des points sur 11 courses, donc ça prouve ta régularité. Tu as 23 points d'avance sur ton coéquipier qui est pas n'importe qui, puisque c'est le double champion du monde, Fernando Alonso, et tu sors de ta meilleure course, on l'a dit également avec Stephen, une 5e place en Autriche. C'est ce que tu cherchais un petit peu depuis le début de la saison, de la fiabilité avec cette Alpine, voilà, cumuler performance et fiabilité, et vous semblez avoir trouvé enfin le bon dosage en fait. Hein.
Ouais, ça se passe plutôt bien en ce moment. C'est clair qu'on a une voiture qui monte vraiment en puissance. L'équipe délivre, l'équipe amène des nouvelles pièces, des nouveautés, et gère très bien en fait la façon dont la saison se déroule. Et plus ça va, et plus on monte en puissance. C'est le projet. Qu'avait dit voilà Laurent Rossi, on voulait progresser pendant cette année avec cette nouvelle règle, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc tout se passe voilà plutôt bien. C'est clair qu'on a encore des choses à régler, la fiabilité, on a aussi voilà encore pas mal de déficits en performance, mais ce top 5 en Autriche montre que on est sur la bonne direction, et que voilà, si des opportunités se créent au Paul Ricard ici au Grand Prix de France, on sera là pour saisir ces opportunités.
Et tu disais que votre objectif et ton objectif avec Alpine, c'était éventuellement de rattraper les deux Mercedes, Russell et Hamilton, parce que vous êtes pas loin. Tu penses que sur la fin de saison, il y a une possibilité de leur gratter des spots?
On n'était pas loin hein, déjà en Autriche. J'étais devant Russell pendant une bonne partie de la course. C'est clair que sur la fin, il avait plus de rythme que nous. Encore pas mal à bosser, mais on amène encore des nouveautés pour cette course-là. Faut voir combien de performances on va gagner, et si Mercedes aussi va gagner de la performance avec ce qu'ils amènent. Mais la hiérarchie peut vite changer, et puis ça peut vite voilà les doubler à la course au développement. Donc il faut pas sous-estimer les autres. C'est clair qu'ils travaillent aussi, mais nous pour l'instant on fait du bon travail, et ça c'est bien.
Esteban, on a beaucoup parlé de cette forte médiatisation de la Formule 1 et notamment de cette série Drive to Survive. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un petit peu un essoufflement pour vous, coureurs, d'avoir les caméras Netflix en permanence derrière vous? Est-ce que vous n'en avez pas marre?
Non, parce que c'est de la bonne publicité hein, pour notre sport. On ne peut pas se plaindre de super publicité comme ça. Et puis, quand on part d'une plateforme comme Netflix, où moi je regarde des séries... des documentaires ou même des séries comme Stranger Things, des trucs comme ça, et puis de voir sa tête juste en dessous, c'est quand même incroyable. Donc non, on peut pas se plaindre d'avoir des belles pubs comme ça, et puis que Netflix s'intéresse à la Formule 1 de l'intérieur. Et comme je l'ai dit, ça amène un nouveau regard sur la Formule 1, plus moderne, et ça a ouvert vraiment les gens à voir notre personnalité, parce que ça pouvait paraître très robotique pas avant. On pouvait voir des voitures qui tournaient autour d'un circuit, oui. Et puis pas trouver ça intéressant.
Un peu hors sol. Et puis pas voir vos visages aussi. Là, on voit vos visages, on voit vos sentiments, vos émotions.
Tu nous confirmes quand même que c'est un peu scénarisé, quoi. C'est pas vraiment la retranscription de la réalité, quoi.
Oui. Alors, il y a eu la saison 1, je trouve qu'elle elle ressemblait pas mal à la réalité quand même. Mais plus ça a été, il y a eu un peu de scénarisation sur la fin, sur les dernières saisons. Et c'est quelque chose que Netflix va revenir un peu plus à la réalité. Voilà, ils nous ont parlé, ils ont parlé aussi à la presse et c'est quelque chose voilà où ils vont faire des efforts pour rester et moins scénariser les choses parce que oui, il y a des pilotes à qui ça plaisait moins. Mais bon, moi ça allait de ce côté-là.
Esteban, tu as encore de belles années devant toi, tu as tout juste 25 ans, tu as franchi le cap mythique et symbolique des 100 grands prix disputés d'ores et déjà, tu en as gagné un l'an dernier en Hongrie, on le rappelle, sur l'année donc 2021. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la suite? Je sais que tu es encore sous contrat longue durée avec Alpine jusqu'en 2024. Est-ce que tu as des ambitions de progresser avec la marque l'écurie française ou est-ce que tu aspires aussi à quelque chose de mieux? Pourquoi pas les top teams dans l'avenir?
Pour l'instant, je suis complètement dédié à Alpine, justement. Hein, ce que je parlais de tout à l'heure, le projet qu'on a, c'est assez à long terme hein, avec Alpine. C'est pour ça que j'ai signé pour... un contrat si long, c'est très rare d'avoir un contrat si long en Formule 1 et c'est pour ça que c'était bien de signer quelque chose de stable avec l'équipe et on monte en puissance. Donc j'espère que voilà, on pourra décrocher des super places, des podiums constamment et puis pouvoir avoir plus de victoires comme on l'a eu l'année dernière parce que c'est pas le cas encore forcément pour l'instant, mais c'est ce qu'on veut se créer par la suite et on est sur la bonne voie. Donc pour l'instant voilà, je suis content avec Alpine, on progresse. Mais bon, on ne sait jamais de quoi le futur peut nous amener. Mais pour l'instant, jusqu'à 2024, mon futur est avec Alpine. Et c'est clair que ça passe vite sans Grand Prix, mais j'ai l'impression que voilà, c'est encore le début.
Et oui, 25 ans, tu as encore le temps de voir venir. Un mot tout de même sur ta relation avec Fernando Alonso. On le disait, tu as la chance d'être aux côtés d'un double champion du monde. On dit souvent qu'en F1, ton plus grand rival, c'est ton coéquipier. Quelle relation vous avez l'un avec l'autre?
Ouais, on a une très bonne relation, on s'entend très bien ensemble. Il y a une atmosphère qui est top dans l'équipe. Voilà, il y a des beaux débats, il y a des beaux échanges et on a beaucoup de points en commun ensemble. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est on est tous des compétiteurs. Tout ce qu'on veut, c'est faire bien, faire progresser la voiture. Nous, ça nous intéresse pas, voilà, des petits points ou nous, ce qu'on veut, c'est gagner au final. Donc c'est ce qu'il faut qu'on passe par. Il faut qu'on passe par ces points, par ces phases là. Mais ce qu'on veut, voilà, c'est amener l'équipe au top le plus tôt possible. Et ça, c'est un point en commun qu'on a tous les deux. Donc, on s'entend très bien et j'ai voilà, beaucoup de chance d'être coéquipier avec lui.
Bon, on peut espérer un podium d'Esteban Ocon ce week-end au Grand Prix de France?
Je vais tout faire pour, en tout cas.
Bon, bah tant mieux. Et dernière remarque à Stephen. Tu sais que Esteban a un point commun avec notre ami et consultant RMC Sport, Mathieu Bodmer?
Alors c'est pas son poids.
Non,
je pense qu'il est hébroïcien.
Exactement.
Il est né à Évreux,
natif d'Évreux et fier de l'être, j'imagine.
Beaucoup de sportifs, hein, Émile Gomis qui est médaille d'argent en basket.
Ah bah voilà.
Ah oui, exact. Un casque qu'il a fait designer par c'est un jeune enfant, il me semble qui a
designé ton casque. Ouais.
Voilà.
Exactement.
Il y a deux légendes à Évreux, il y en a plus que deux hein,
quand même. Non, il y a Émile Gomis aussi qui est médaille d'argent au basket.
Ousmane Dembélé. Et Esteban Ocon.
C'est incroyable qu'une ville comme ça sorte de
C'est beau non plus.
Esteban Mandanda aussi.
Esteban Mandanda, il y en a trop.
Du moins qu'Esteban déboule à 300 à la Madeleine.
Et on a le stade Mathieu Bodmer, pourquoi pas le circuit Esteban Ocon à Évreux.
Pourquoi pas.
Merci Esteban en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes. On te souhaite une bonne préparation. Un magnifique Grand Prix de France qu'on va suivre évidemment sur RMC. Salut Esteban, à bientôt. 18h14 sur RMC dans un instant. On va filer au Japon justement. Stephen, on va retrouver le Paris Saint-Germain, Arthur Perrault au plus près des Parisiens. Il y a eu un match amical face au champion du Japon en titre. Voilà, le Kawasaki Frontal. Victoire parisienne 2-1 et pas mal d'enseignements à en tirer. Tu verras, on va en parler avec Arthur. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h16 sur RMC, l'Intégral Sport jusqu'à 19h avec Stephen Brun. Dans 10 minutes, on va débriefer la 17e étape du Tour de France avec le druide Cyril Guimard. La victoire d'étape pour Tadej Pogacar à Péragude et évidemment Jonas Vingegaard qui termine dans sa roue et qui conserve son avance au classement général. On le disait, on parle de foot et de cette deuxième victoire en amicale pour le Paris Saint-Germain, la première de la tournée estivale des Parisiens au Japon. Le PSG a battu le Kawasaki Frontal, champion en titre de la Japan League, 2-1, sous les yeux, Stephen, de 65 000 personnes au stade olympique de Tokyo. Magnifique ambiance donc pour ce match des Parisiens. L'occasion également pour le nouveau coach Christophe Galtier d'affirmer ses choix tactiques, notamment cette défense à 3, cette position de meneur de jeu pour Léo Messi ou encore cette doublette d'attaque Neymar Mbappé. Arthur Perrault est au plus près des Parisiens. Salut Arthur.
Kumbawa messieurs, bonsoir à tous.
Et allez, il continue de se faire briller. Allez, encore.
À chaque fois, il nous sort le même mot.
Hein. Ouais, c'est pas si compliqué.
Oui. Parce que c'est le même à utiliser à chaque fois.
C'est vrai. Mais il n'y a pas un bonsoir, non?
C'est le bonsoir.
Ah, d'accord. Et comment on dit bonjour?
Il y a le bonjour, bonjour le matin, Ohayou gozaimasu. Bonjour l'après-midi, konnichiwa. Et bonsoir, kombawa.
Ok. Ouais.
Et on connaît, voilà. D'accord.
Le timing est très important dans la répartition de la journée.
Très bien. Raconte-nous l'ambiance qu'il y avait autour de ce match. 65 000 spectateurs, je le disais, c'était une ambiance survoltée pour un match de préparation. Hein.
Une ambiance complètement folle, un peu à l'image de la conférence de presse de présentation qu'on a eue en arrivant ici à Tokyo dimanche dernier, un peu à l'image de la réception qui a été organisée hier matin avec les sponsors locaux. Tu l'as dit Benoît, plus de 65 000 spectateurs dans ce stade national du Japon, avec pour l'entrée des joueurs le show d'un chanteur-guitariste japonais qui s'appelle Miyavi,
avec Stephen Adore.
Des flammes dans tous les sens, des jeux de lumière en tribune avec les supporters qui tenaient des lampes torches qui s'allumaient en bleu et en blanc. Enfin bref, une ambiance de dingue pour cette rencontre du côté du stade national du Japon. C'est vrai qu'on s'est régalé du côté de l'ambiance.
C'était 19h30, hein, le coup d'envoi de ce match heure japonaise. Exactement. Évidemment. On attendait évidemment l'équipe de départ, hein, à savoir si Christophe Galtier allait continuer justement avec ses choix tactiques. Il avait affirmé lors de sa présentation, il voulait partir sur une défense à 3. Ça a été le cas. Vous donner l'équipe de départ, oui. Donnarumma dans les buts, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, c'est quand même du lourd, Hakimi piston droit, Nuno Mendes piston gauche, avec la doublette au milieu de terrain, Gueye et Vitinha, puisque Verratti n'était pas sur la feuille de match pour le match d'aujourd'hui, et puis cette triplette d'attaque Messi, Neymar, Mbappé. C'est la question qu'on se posait, la défense à 3 est amenée à durer, hein. Paris s'est exposé sur ce match, c'est la grande tendance qu'on peut retenir, en tout cas ils ont concédé énormément d'occasions les Parisiens, Arthur, mais quoi qu'il arrive, le nouveau coach veut insister dans ce schéma a priori. Hein.
Exactement, ouais, il l'avait déclaré dès sa conférence de presse de présentation il y a 2 semaines du côté du Parc des Princes. Il avait dit, je veux mettre en place une défense à 3 dès mon arrivée au Paris Saint-Germain. Ça a été travaillé tout au long de la semaine lors des séances d'entraînement, ce 3-4-1-2 avec le trio Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Ce n'est que le début. Ça a beau avoir été travaillé à l'entraînement, ça demande encore beaucoup de travail. C'était peut-être aujourd'hui le premier vrai test.
Ah oui.
Face à une équipe qui est en plein milieu de son championnat, 22e journée de la G League, le championnat japonais.
Qui est champion au titre, d'ailleurs.
Exactement, qui a 2 matchs de retard, mais qui est quand même déjà 3e de son championnat, ce n'est pas rien. Une équipe qui est déjà prête physiquement, tactiquement. Donc voilà, il y a eu du répondant dès le début de la rencontre, avec un pressing très haut, beaucoup d'intensité. On a vu Galtier être vraiment très remuant sur son banc de touche, à régulièrement replacer sa défense. Et le premier vrai test a été sur les côtés, notamment pour Presnel Kimpembe, avec ce joueur Marcinho sur le côté gauche de l'attaque japonaise, qui a causé beaucoup de problèmes à la défense parisienne, avec des appels dans le dos de la défense, beaucoup de débordements. Voilà, on a senti une défense à 3 un peu débordée en début de rencontre. Ça s'est ensuite calmé, peut-être aussi parce que le Paris Saint-Germain a réussi à équilibrer le jeu en termes physiques.
Et tu lui as posé la question à Christophe Galtier justement à l'issue de ce match. Est-ce qu'il allait continuer? Est-ce qu'il allait, quoi qu'il arrive, rester dans ce schéma à 3 défenseurs centraux? Écoutez sa réponse.
À partir du moment où on a beaucoup de monde sur un plan offensif, il faut garder un juste équilibre. On n'est qu'à 2 semaines de préparation. Il faut qu'on trouve beaucoup plus rapidement des réglages, des compensations pour éviter de prendre toutes ces situations de transition. Mais après, il y aura toujours de l'adaptation et cette période-là aussi doit nous permettre de travailler d'autres systèmes, toujours, toujours, en gardant cette volonté de pouvoir être très dangereux sur un plan offensif.
Ouais, Stéphane, ça fait un an déjà que les supporters parisiens fantasment de cette défense à 3 avec Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Galtier a envie de la mettre en place, c'est normal qu'il ait besoin un peu de réglage,
Bien sûr, c'est normal, surtout après que 15 jours de préparation. Maintenant, on retrouve un petit peu les mêmes carences qu'on a vues la saison dernière, c'est-à-dire le problème d'équilibre entre les velléités offensives, parce qu'offensivement, il y a quand même beaucoup de situations, Messi, Neymar, Mbappé, et les transitions défensives derrière, où ça part en contre-attaque. Après, ce qui a été curieux, et à voir si ça continue, à voir si Kimpembe fait toute la saison ou s'il part, c'est sur cette défense à 3 de voir Ramos à droite, qui a quand même été en grande difficulté.
Ouais. C'est Marquinhos qui était dans l'axe de cette défense à 3.
On aurait pu penser que Sergio Ramos soit au milieu avec Marquis à droite et Kimpembe à gauche. Donc, est-ce que Galtier regarde ça pour éventuellement changer? Mais c'est vrai que Sergio Ramos, moi, je l'ai trouvé un petit peu dans le dur sur son côté droit.
Arthur. Là où il est très habile dans le discours, dans la réponse qu'on vient d'entendre de Christophe Galtier, c'est que, et tu en parlais Benoît, l'année dernière on parlait beaucoup du manque de repli défensif du trio en attaque, de ce trio de stars Messi, Neymar, Mbappé. Là il le glisse subtilement en disant que oui, il y a cet équilibre à trouver défensivement avec cette défense à 3, il travaille pour, mais au même moment, il pense aussi à ceux qui sont devant. C'est-à-dire que il nous fait comprendre que le message est passé aussi à ceux de devant, que voilà, il faut faire l'effort. Et on les a vus le faire un petit peu ce soir. C'était pas flagrant, mais voilà, on sent devant aussi des joueurs concernés. Un Messi qui, mine de rien, était peut-être un peu plus à l'aise qu'à l'accoutumée dans ce rôle un peu plus libre, juste derrière Neymar et Mbappé. Voilà, il a fait beaucoup de bien. Après, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le milieu de terrain pour terminer. Hakimi, Gay, Mendes, des choses plutôt intéressantes. Peut-être une petite pointe de déception du côté de Vitinha, avec pas mal de passes manquées au cours de cette rencontre. Voilà, on l'a senti un peu en dedans. C'est dommage parce que on en parlait déjà hier, messieurs. Il avait laissé entrevoir de très bonnes choses lors des séances d'entraînement, avec beaucoup de prises d'initiative, voilà, de frappes de loin. Donc voilà, à confirmer sur les prochaines rencontres pour Vitinha. Il faut peut-être encore un peu de temps.
Et juste que concernant les bonnes impressions par rapport à cette rencontre amicale, Arnaud Calimwendo, qui a quand même fait une belle seconde période, il est rentré à la pause et il s'est mis en évidence, lui qui était prêté à Lens les deux dernières saisons, Arthur.
Oui, c'est vrai. Et alors, il y a eu beaucoup de changements au cours de cette rencontre. Hein. On va préciser que Sarabia est aussi rentré en jeu, Dina Mbimbe, Bernat ou encore Diallo. Mais c'est vrai que peut-être la performance à retenir, c'est celle d'Arnaud Calimwendo, qui a d'ailleurs été décisif. Se pose toujours forcément la question de son avenir. Le Paris Saint-Germain tenait à le faire revenir. Est-ce qu'il faudra de nouveau trouver un prêt? Est-ce qu'il faudra mettre une option d'achat ou non? C'est un peu le tube du moment du côté du Paris Saint-Germain. Forcément, cette prestation aura son importance dans ses futures négociations.
Moi, je ne comprends pas qu'on insiste pas avec Calimwendo.
Tu veux mon avis là-dessus? Alors, ça reste comme mon avis, donc il n'est pas très intéressant. Mais je vais quand même le donner. T'as un garçon qui a été formé au club, qui a fait des belles saisons à Lens, qui est aujourd'hui un joueur de haut niveau. Garde-le. Qu'est-ce que tu vas envoyer 50 patates sur Samaka, parce que ça soit l'eau, on demande 50 millions, alors que t'as un gamin qui fait partie de ton club, qui connaît le club, qui est un bon joueur, et qui va accepter, parfois, de se contenter de rentrer à la 65e.
D'autant que tu voulais un profil différent, un profil atypique avec un joueur de grande taille, tu l'as pris avec Hugo Ekitike.
Exactement.
Tu peux conserver Arnaud Calimwendo, qui peut te servir sur les matchs de Ligue 1. Moi, je suis 100% d'accord avec toi, Stéphane.
C'est gentil.
Arthur, tu voulais rajouter un truc?
Non, mais peut-être je pourrais avoir la réflexion dans l'autre sens, c'est-à-dire que il s'est vraiment révélé justement en allant chercher du temps de jeu ailleurs et en mettant à profit ce rôle qu'il a. Faut dire que la voie est peut-être un peu bouchée du côté du Paris Saint-Germain. Là, il entre à la place de Kylian Mbappé. Forcément que Kylian Mbappé, on le sait, aura un rôle très important cette saison.
Oui, mais bon,
peut-être en termes de temps de jeu
aussi. Mais il y a beaucoup de matchs, Arthur, cette saison. Tu vas me dire que tu vas envoyer 50 millions sur Samaka pour qu'il joue des bouts de match en Coupe de France.
Et puis Neymar est toujours blessé.
Exactement. Après, on peut voir aussi de l'autre côté. Que veut faire Arnaud Calimwendo? Peut-être que lui, il a d'autres aspirations. Peut-être que lui, il a envie d'être titulaire.
Exactement.
Peut-être que lui, il a envie de jouer beaucoup de matchs. Exactement. Donc, il faut voir aussi de son côté, s'il peut se contenter de bouts de match, de match de Coupe de France ou de voir quand il y a des mecs blessés.
Alors, justement, là, on aborde les questions mercato. Il y a une info qu'on peut vous confirmer, Arthur, c'est que le PSG s'active pour recruter Nordi Mukiele, qui est le piston droit français de Leipzig. Et a priori, c'est un dossier bien engagé.
Exactement. Ce que l'on peut vous confirmer, c'est que Mukiele est bien dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le joueur suivi de très longue date et particulièrement apprécié par Luis Campos, on va y revenir, dispose d'un accord de principe avec le club de la capitale. Mais attention, parce que le dossier n'est que dans sa première phase. Le PSG doit maintenant trouver un accord avec le club allemand. Des discussions en ce sens sont en cours. On peut le comparer un peu au dossier Renato Sanchez, c'est-à-dire qu'il y a eu très rapidement un accord de principe de passer avec le joueur. C'est plus compliqué de se mettre d'accord avec le club dans lequel est actuellement ce joueur. Surtout que on le remarque, et Stephen, tu parlais des 50 millions de Scamacca, le PSG est confronté à des clubs qui sont face à lui de plus en plus gourmands.
Eh oui.
Ça, c'est un constat qu'on peut faire, et c'est peut-être ce qui fait que plusieurs dossiers en termes d'arrivée sont aujourd'hui dans une phase de ralentissement.
Voilà. Oui, parce que Luis Campos ne veut pas surpayer les joueurs.
Il reste un contrat.
C'est une réalité.
Après, c'est un bon coup. Moi, Mukiele, il a volume impressionnant.
Il peut jouer à deux postes.
Il peut jouer deux postes dans une défense à 3, dans une défense à 5. Il peut jouer arrière droit. C'est puissant, c'est costaud. Ouais. Expérience européenne, quasiment plus de 30 matchs en Coupe d'Europe. Ouais. International, même s'il n'a qu'une sélection. J'aime bien. Ça sera un bon coup. Après, il faut pas aller au-dessus des 15 millions. C'est un braquage pour Leipzig.
Bon, en tout cas, c'est un dossier bien avancé. On verra si l'accord est trouvé entre Leipzig et le PSG. Et puis, juste dernière info, Arthur, précisons que le PSG a pris la décision compte tenu des conditions météo compliquées. Parce qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, on l'a vu aujourd'hui d'ailleurs, ça fatigue les organismes, de raccourcir cette tournée. En gros, les Parisiens vont rentrer dès la fin de leur dernier match amical qui est prévu lundi face au Gamba Osaka.
Exactement, on a eu des précisions d'ailleurs ce soir de Christophe Galtier à ce sujet en conférence de presse. Le Paris Saint-Germain qui prendra l'avion dès le lendemain, donc mardi matin, après ce match face au Gamba Osaka. La raison avancée, c'est... optimiser au maximum la préparation du trophée des champions qui est prévu, on le rappelle, le 31 juillet à Tel Aviv face à Nantes. Les joueurs parisiens feront donc leur retour mardi à Paris et il y aura des entraînements de programmés dès leur arrivée du côté du camp des loges. Donc voilà, ça va aller très vite. La préparation va encore s'intensifier du côté du camp des loges, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, il y a vraiment cet objectif en tête. Christophe Galtier en parlait dès l'arrivée à Tokyo. Objectif trophée des champions, mobilisation générale du côté du Paris Saint-Germain pour atteindre cet objectif.
Merci mon petit Arthur, bonne nuit à toi. Et puis évidemment, on te retrouve rapidement. Prochain match pour les Parisiens, samedi.
Comment on dit bonne nuit en japonais?
Bonne nuit, je ne l'ai pas.
Super. Bravo.
Bonne nuit, je ne l'ai pas. On peut répéter Arigato Gozaimasu.
Dis-nous good night.
Good night, ça suffit. Ouais. Voilà.
Ouais. Oui, c'est ça.
Bon, merci Arthur. Et prochain match samedi, on le disait, à midi, face au Urawa Red Diamonds.
Red Diamonds.
Pas mal ça. Hein.
Exactement.
Allez, merci.
Et Oyasumi, bonne nuit. Allez, Oyasumi.
Ah ouais, bah le gars, il a cherché.
Merci Google.
Et ouais, merci le moteur de recherche. Salut Arthur.
Salut.
18h29 sur RMC. Dans un instant, le Tour de France. Stephen, voilà, on s'attendait à une explication finale entre Tadej Pogacar.
On l'a eu.
Et Jonas Vingegaard, la question que je te pose, est-ce que Cyril Guimard va être chafouin?
Non, je pense qu'il a fait un petit peu plus de plaisir aujourd'hui qu'hier. Alors, Cyril,
tu mets une pièce sur le non, je mets une pièce sur le oui.
Sérieux?
La réponse dans un instant. Okay. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h33 sur RMC, l'Intégral Sport dans une demi-heure, l'after tour autour de Christophe Cessieux, retour sur cette 17e étape, évidemment, remportée par Tadej Pogacar, dont on va parler dans un instant avec le druide Cyril Guimard. Et puis dans un quart d'heure, on va retourner aux États-Unis à Eugene pour les championnats du monde d'athlétisme. Ah, Stephen, on a une pointe de regret quand même, hein, pour le 400 mètres haies.
Wilfried.
Ça s'est joué à quelques centièmes pour Wilfried Apiaud. Hein. Il échoue à la quatrième.
Ça s'est joué à quelques centièmes. Et même le réalisateur, Apiaud, était troisième à un moment donné sur l'écran. Exactement. L'espace de 30 secondes, une minute, avant que cet Américain, là, une sortie de nulle part en couloir 8, vienne casser devant Wilfried Apiaud.
Exactement. 18h34 sur RMC. Le duel au sommet a eu lieu sur la route du Tour de France. L'explication finale entre Tadej Pogacar, double tenant du titre, et Jonas Vingegaard, porteur du maillot jaune dans l'ascension de Peyragudes. Une pente finale à 16%. Et c'est Pogacar qui l'a emporté à l'arrivée à l'Altipor. L'autre consolation pour le Slovène, qui n'a repris que 4 secondes au leader du classement général grâce au jeu des bonifications. Pogacar qui a semblé impuissant face à Vingegaard, qui était tout en contrôle. Et désormais, il y a 2 minutes 18 d'écart au classement entre les deux hommes avant la dernière étape de montagne qui est programmée demain. Cyril Guimard est donc avec nous, le druide. Salut Cyril.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Salut
à tous.
Salut Cyril. La France entière se pose la question. Cyril, chafouin ou pas chafouin?
Moite-moite.
Alors moite-moite parce que il y avait quand même un beau scénario de course et une belle journée. Moite-moite, j'imagine, par rapport à l'ascension finale et ce manque de force de Pogacar, c'est ça qui te laisse un peu sur ta faim, Cyril?
Ben, on aurait aimé avoir un combat beaucoup plus agressif, mais je pense que nos deux protagonistes sont, ça on l'a déjà dit depuis un moment, sont pratiquement du même niveau. Et puis que du côté, quels que soient les discours que l'on peut tenir au niveau de Pogacar, bon, je pense que dans la tête, il y croit plus trop.
Il a dit qu'il
a des raisons de ne pas trop y croire. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il était dans l'incapacité d'attaquer Vingegaard comme il aurait souhaité le faire. Il n'avait pas les jambes pour le faire. Et finalement, il aura repris 4 secondes sur une arrivée au sprint au sommet ici. Seulement 4 secondes, mais je pense qu'il ne pouvait pas, faire mieux, sinon il l'aurait fait. On a pu voir après l'arrivée d'ailleurs qu'il avait les traits très tirés, que même son sourire était, ouais, n'était plus le sourire que nous connaissions. Il était plutôt de circonstance. Je pense qu'il a compris très tôt que dans cette étape, que le tour était fini. Mais c'est vrai, pourquoi je dis moite-moite, parce qu'on aurait aimé quelque chose de plus explosif, de plus spectaculaire. Ouais. Mais vous savez, nous on propose, nous on a des envies, le grand public également. Et puis, c'est les coureurs qui font la course, pas nous. Et donc, ils la font avec, avec leurs moyens, avec les moyens des équipes. Et on sait que même les deux grosses équipes qui ont le maillot vert et le maillot jaune, et puis Pogacar, eh bien, sont des équipes qui sont, elles aussi, très diminuées par le nombre d'abandons qu'il y a eu. Donc on ne peut pas non plus rentrer dans des grandes manœuvres collectives. Bon, ben ça, c'est la règle de la compétition, c'est la règle sur ce Tour de France, et il faut accepter que ça se passe comme ça.
Ouais, il y a un peu de fatalité, Stephen, hein. Ça y est, on s'est dit Pogacar ne peut plus rien faire.
Alors que la situation était peut-être idéale, puisque McNulty était avec Pogacar, il y avait un espèce de 2-1
mention spéciale à McNulty,
chapeau, ce qui nous a fait
aujourd'hui de Pogacar.
Donc tu t'aperçois que moi j'ai trouvé Vingegaard très serein.
Ouais.
Très serein. Pogacar qui se posait des questions, j'y vais pas, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire. Il gagne l'étape à l'ego. Je pense qu'il y va à l'ego parce qu'il veut prendre l'étape et qu'il veut laisser Vingegaard derrière. Résigné. Cyril, je vais te poser une question. Toi, t'étais pas là pour vendre du rêve, mais moi j'ai envie de vendre du rêve un petit peu. Pogacar, moi non plus j'ai pas fait d'études, t'inquiète pas. Pogacar,
il a repris 4 secondes, il était à 2.22,
mais il a 2.40 d'avance sur Geraint Thomas qui est 3ème.
Oui.
Deuxième, Pogacar, il est pas venu pour ça, il est pas venu pour la 2ème place. Est-ce que demain il peut pas tout tenter, quitte à péter la 3ème place à 2:40, il va pas la perdre contre Thomas?
Non, mais c'est le problème, il est simple, c'est où tu peux attaquer, où tu peux pas. Là, aujourd'hui, visiblement, il pouvait pas. J'ai presque envie de dire, à certains moments, il était peut-être très content de pouvoir suivre son équipier, qui maintenait un rythme très élevé, mais pas extraordinaire. Vingegaard, lui, on prend pas de risque. Lui, il a tout à perdre s'il joue un petit peu au fanfan la tulipe, au cow-boy. Donc, lui, il ne bouge pas, il attend. Mais dans la mesure où Pogacar n'a pas les moyens physiques suffisant. Attendez, ils sont quand même les deux plus costauds du tour. Le savoir.
Et de loin.
Donc, quand ils sortent, ils partent tous les deux. Donc tout est relatif quand je dis qu'il n'a pas, les moyens par rapport à son adversaire. Donc on a deux coureurs qui sont tellement proches l'un de l'autre qu'actuellement, on va dire, tout se passe plutôt sur le plan psychologique. C'est-à-dire, il y en a un qui est dans une phase euphorique, qui a la confiance, qui a plus de 2 minutes d'avance, et puis l'autre qui a 2 minutes de retard et qui commence à se rendre compte que les carottes sont cuites. Il ne reprendra jamais 2 minutes 20 à un coureur qui est aussi fort que lui.
Après, il faut remettre les choses en perspective, messieurs. On avait peur au début du tour d'avoir un tour écrasé par Pogacar, justement, et de se dire qu'il n'allait pas avoir de concurrence. On connaissait à peu près le podium. On prévoyait Roglic et Vingegaard. On ne savait pas encore dans quel ordre. On se disait Pogacar va tout écraser. Et juste pour revenir sur lui, sa performance personnelle, rappelons qu'il a seulement 23 ans. Ça fait 9 succès déjà sur le Tour de France. Et ses deux premières participations, il a remporté le Tour de France.
Et tu te rends compte que là, il risque de le perdre parce qu'il a eu 25 minutes de défaillance physique.
Le col du Granon.
Sur 3 semaines, 25 minutes de défaillance, et il va perdre le Tour.
Mais c'est fantastique pour nous de se dire qu'il n'y a pas de fatalité et que Pogacar ne va pas écraser le Tour pendant 10 ans, Cyril, aussi. On peut voir des choses comme ça.
on pourra refaire le débat, alors.
Ouais, c'est vrai. Parce que s'il revient encore plus fort que jamais l'année prochaine, oui, c'est vrai.
Mais il s'est pris... faut le dire, il s'est pris une claque sur ce Tour. 25 minutes, 25 minutes liées... liées à des fautes qu'il a commises lui, peut reprocher à personne, parce que se prendre une fringale dans le col du Granon, il faut faire ce qu'il faut pour avoir la fringale. On a aujourd'hui tous les moyens de pouvoir, que ce soit en termes de possibilité de ravitaillement pendant la course. Et je pense qu'à un moment il a oublié. Enfin, c'était pas simple parce qu'il a été attaqué quand même. Et il y a quand même ses adversaires qui l'ont un petit peu poussé à faire ce type de faute. C'est qu'ils l'ont attaqué dans le galibier pratiquement juste après le passage du télégraphe. Donc pendant ce temps-là, t'es obligé de contrer. Tu bouffes beaucoup d'énergie puisque tu vas chercher tout le monde, puisque à ce moment-là il n'avait plus d'équipier. Et puis il en a rajouté un petit peu en haut. Pendant tout ce temps-là, il a jamais mis la main à la poche.
Pas le temps de prendre la sticker, c'est bon.
La descente, elle se fait en 20 minutes, quoi. Ouais. Et 20 minutes après, tu rattaques le Grandon. Même si tu manges dans le bas, c'est trop tard, quoi.
C'est sûr.
Donc c'est une faute qui lui coûte quand même ce jour-là, perd 3 minutes. Donc en perdant 3 minutes moins l'avance qu'il avait, il s'est retrouvé à 2 minutes 20. Ce temps qu'il a perdu à la pédale aujourd'hui, pour moi, il ne peut pas le refaire.
Cyril, ça y est, on connaît l'ordre du podium parce que Guérin Thomas a terminé 3e et ça y est, il a un match d'avance.
Tu vas pas demander à Cyril si David Gaudu ou Romain Bardet peuvent finir sur le podium.
Dès lundi qu'il n'y croyait pas une seconde.
Si je vous dis que le podium, il est fixé, je vais me faire tuer par Christophe Cessieux et par Pilou.
Ouais, tu dis ce que tu penses, hein, Cyril, en même temps. Hein. Guérin Thomas qui est troisième à 4 minutes 56.
Il n'est jamais fixé parce que la course. Guérin Thomas gère très bien avec ses moyens, mais sachant, je le redis quand même, les deux autres, c'est deux monstres aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Donc derrière les deux monstres, ils gèrent très très bien et j'ai envie de dire, c'est le meilleur des autres.
Il se met jamais dans le rouge en disant tiens, je vais voir si je peux tenir Vingegaard ou Pogacar.
Il n'est pas capable. Tu fais ça quand t'as 22 ans, mais pas quand t'en as 30 et quelques. T'as déjà bouffé la feuille de match plusieurs fois en essayant de le faire. Donc quand tu peux aller chercher pour Guérin Thomas qui a gagné un Tour de France cette année, aller chercher un podium.
Chapeau.
Dans le palmarès, ça fait quand même bien, quoi.
Allez, Cyril, fais un effort, donne-nous une bonne raison d'être émoustillé à l'idée de suivre l'étape de demain entre Lourdes et Hautacam.
Oh là, je suis sec.
Ouais, ça, c'est pas cool.
T'as qu'à nous dire d'écouter RMC et de vous écouter, toi et Christophe.
Vous dites qu'il faut que je dise ce que je pense.
Bah oui, il n'y a pas un Français qui peut nous sortir un truc de dingue, une victoire d'étape.
Écoutez, le seul espoir qu'on a, nous, Français, c'est qu'il y a un coup qui parte avec un Français qui peut aller gagner en haut d'Hautacam.
Pinot.
D'Hautacam, pardon.
Oui, Pinot était à la rue aujourd'hui.
En dehors de ça, on a vu, et on ne l'a pas évoqué d'ailleurs, mais la formidable étape de
Romain Bardet.
De Romain Bardet, qui hier se demandait s'il allait finir l'étape, et qui a eu aujourd'hui une réaction de champion. Bon, il a repété derrière, mais c'est beau ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Bon. Demain, il risque peut-être de payer l'addition avec la TVA en plus.
Au moins, il aura
été acteur, il aura été jusqu'au bout de lui-même.
Exactement.
Et ça, je crois que c'est formidable. Bon. Alors après, un Français sur le podium, bon, ça, je crois qu'on peut oublier.
Ouais.
Mais il ne reste plus qu'une victoire d'étape.
Hein. Allez, pourquoi pas.
Moi, j'ai envie de faire le tour des champs, mais de leur dire, attendez les gars, là, faut y aller, quoi.
Bah vas-y, Cyril, n'hésite pas. Après l'after tour de 19 à 20 heures, tu fais le tour des hôtels.
Je fais pas la dernière émission là, 19-20h. Je vais demander une permission, puis je vais aller faire les chambres d'hôtel.
Prends le pass, demande à l'accueil, rentre dans toutes les chambres.
Tu sais quoi, Cyril? Permission accordée.
Je vais avoir un pass.
Voilà. Permission accordée. T'es dispensé de d'after tour si tu veux ce soir pour aller rendre visite.
Merci, c'est super sympa ça.
Bon, allez, merci Cyril.
Merci Cyril.
En tout cas, on te dit. Ah, ça, il est là, c'est Christophe. Il veut pas perdre son druide, Christophe. Oui, il a peur.
Évidemment. Il n'aurait plus de guide.
Oui, c'est ça, exactement. Oui. Il ne veut pas se contenter de Pierre-Yves Leroux, évidemment. Allez, merci les gars, à tout à l'heure.
Ciao,
on
se retrouve
à 19h pour l'After Tour et nous on revient dans un instant, Stephen. La suite et la fin de l'Intégral Sport, direction Eugene, les États-Unis, revenir sur la 4e place frustrante aux 400 mètres et de Wilfried Apio et sur la comète
Alice Finot sur le 3000 mètres steeple. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h48 sur RMC l'Intégral Sport avec l'excellent Stephen Brun. Dans 12 minutes, l'after tour avec Cyril Guimard. Voilà, il a été retenu par le col, par Christophe Cessieux. Toute la bande du tour sera là pour analyser la victoire de Tadej Pogacar et surtout la domination de Jonas Vingegaard. Tout de suite, Stephen enfile à Eugene, les États-Unis, les championnats du monde d'athlétisme sous les yeux d'un vénard. C'est Aurélien Tiersain. Salut Aurélien.
Hi guys. Salut. Ah,
tous les jours aussi. Celui-là.
Salut. Ah oui, bah je vais pas m'arrêter maintenant.
Ouais, c'est vrai. Bon, on a une frustration, Aurélien. On en avait parlé hier. On attendait Wilfried Appieux sur la finale du 400 mètres haies. On se demandait ce que ça allait donner au top niveau mondial. Et ça s'est joué malheureusement à 2/100. Il échoue au pied du podium.
Ah, le vrai coup de bambou, il a fait une course énormissime, il est passé devant Karsten Warholm dans la dernière ligne droite parce que normalement sur le 400 haies, il y a trois monstres, c'est Warholm, Benjamin et Alisson Dos Santos. Benjamin des Dos Santos était là, Warholm a eu une fringale dans le dernier tour, dans le dernier 100 mètres, et Wilfried Appieux est parvenu à passer devant, mais pour 2/100, Trevor Bassett, le champion des États-Unis en titre, lui repasser devant à la photo finish. Donc Wilfried Appieux doit se contenter d'une quatrième place juste après la course. C'était plus que de la frustration.
À chaud, on se focalise toujours sur le négatif plus que le positif. Et il y a mon coach là-bas, je sais ce qu'il va me dire. Je pense qu'il a déjà pleuré. Je pense qu'on va pleurer là, à deux là, parce que c'est quand même dur comme place. Maintenant, on va pleurer parce qu'on sait, tout ce qu'on a réalisé ensemble et le chemin qu'on a parcouru depuis maintenant 2 ans où on s'entraîne vraiment K2. Je suis quand même fier de moi d'avoir fait ce chrono-là. C'est quand même, je suis sur les bases de Stéphane Diagana qui est quand même un exemple pour moi et un exemple pour l'athlétisme français. Donc ça peut faire que plaisir.
Voilà, parce qu'en plus d'échouer à 2/100 du podium, Wilfried Appieux échoue à 4/100 du record de France de Stéphane Diagana.
Le record est en danger.
Exactement, et Stéphane avait du nez, ça va tomber, on peut penser, ça va tomber dans les semaines, dans les mois à venir. Et Olivier Vallès, qui est le coach de Wilfried Appieux, il avait en effet les yeux très très rouges dans les couloirs du stade.
C'est un truc exceptionnel, mais c'est exceptionnellement décevant aussi. Donc faut qu'il cicatrise. De ça et de comprendre que la perf est complètement extraordinaire et maintenant ça ouvre toutes les perspectives pour les années qui viennent et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à formaliser, à verbaliser ensemble et pour continuer le travail.
Oh là oui, on sent beaucoup d'émotion. C'est dur aussi pour les entourages, hein, Stéphane,
d'y
croire comme ça, de voir la finale, de se dire que ça va jouer à rien et d'échouer comme ça à 2/100.
C'est dur parce que c'est un couple qui vit des choses, qui s'entraîne, qu'il y a des moments, il y a des très hauts et ça descend aussi très bas. Ils ont vécu beaucoup de grands moments ensemble, donc c'est dur. Mais le plus important, bien sûr, qu'il y a la déception. Et si l'Américain il n'est pas au couloir 8, peut-être que Appieux il arrive à le voir avant et qu'il met un dernier coup de courrier, on peut pas refaire la course. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un vrai déclic. Parce que t'arrives à Eugene, t'as désacralisé Dos Santos, Benjamin et Warholm. Tu les as désacralisés. Ces mecs-là, pour toi, c'était des mutants, inatteignables. Aujourd'hui, t'as fait partie du deuxième 400 mètres haies le plus rapide de l'histoire. Ça veut dire que t'es assis à la table de ces mecs-là. Et aujourd'hui, Appieux, dans un mois, il est en grande confiance. Il faut qu'il soit champion d'Europe. Alors bien sûr, il y a le Norvégien Warholm.
Ouais.
Alors la fringale, je savais pas qu'il y avait une fringale sur le 400 mètres. Je pensais que c'était plus Pogacar qui pouvait avoir une fringale sur le granon. Sur un 400 mètres, c'est compliqué de manger une petite barre de céréales.
Tu
le laisses dans ta poche.
Ouais,
mais il faut qu'il soit champion d'Europe. Il faut qu'il surfe sur cette confiance, la déception. Il faut qu'il la digère rapidement.
Ouais.
Il faut qu'il parte à Munich dans un mois et qu'il soit champion d'Europe.
Est-ce qu'il y pense déjà, Aurélien?
Bah bien sûr, c'est l'objectif. Alors on sait que Karsten Warholm sera beaucoup plus prêt à ce moment-là parce qu'il revient d'une contracture qu'il avait eue en Ligue de Diamant à Rabat il y a un mois et demi. Il a pas couru avant les championnats du monde, donc on peut penser que dans un mois Warholm sera de nouveau injouable. Mais pourquoi pas, on l'a dit sur les haies, il peut tout se passer. Il a le droit aussi de se prendre les pieds dans une haie, de tomber, de ralentir ou de se faire doubler par Appieux qui lui aussi a le droit de progresser encore un petit peu d'ici le mois prochain. Donc viser le titre de champion d'Europe, viser le podium, en tout cas, ça c'est sûr et certain.
Et puis le record, pourquoi pas le record de France?
Le record de France, ça c'est clairement, c'est obligatoire. Hein. Olivier Vallès, l'entraîneur, disait, faut que ça tombe dans les mois à venir.
Il a amélioré son record perso d'une seconde et demie sur ces championnats.
Énorme.
C'est incroyable.
Sur 400 mètres.
Il a répondu présent à chaque fois, à chaque course.
Bravo. Quand on connaît les difficultés de la distance.
Et surtout quand on sait que ce garçon a pu vivre. Alors je suis pas en train de juger les tenants, les aboutissants, parce qu'on connaît pas, on peut l'histoire, ouais. Il est quand même hermétique à beaucoup de choses, hein, pour se présenter.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait eu une agression juste avant son 400 mètres au championnat de France avant sa course. Et c'est vrai qu'il avait couru avec un œil bandé. Ouais. Il avait tout de même remporté le titre de champion de France.
Et mentalement, tout simplement, une plainte pour agression sexuelle posé contre lui, donc il l'a dit, c'est dur mentalement, il essaie de se concentrer sur le sportif.
Exactement.
En tout cas, voilà, sans juger l'affaire, il a réussi à se concentrer sur le sportif.
Monsieur Tiercin, il y a des Français au programme la nuit prochaine, on va parler dans un instant de Mélina Robert-Michon, parce qu'elle est encore là, qualifiée, elle, à 40 ans aujourd'hui. On voulait parler d'Alice Finot, qui est un petit peu la comète du 3000 mètres steeple, voilà, une seconde jeunesse pour elle, qui est déjà trentenaire, mais qui découvre le plus haut niveau maintenant, quoi.
Ouais, exactement. Pour sa toute première participation à un grand championnat, c'était il y a un an et demi aux Europe Indoor de Toruń. Elle avait terminé médaillée d'argent sur le 3000 mètres. Et là, sur le 3000 steeple, elle progresse de mois en mois. Elle a battu trois fois le record de France cette saison pour arriver à un chrono en 9 minutes 14. Désormais, il va falloir passer sous les 9-10 pour la finale de ce 3000 steeple, parce que il y a 8 filles qui sont sous les 9 minutes 10, dont le record est sous les 9 minutes 10. Même souvent sous les 9 minutes pour par exemple la Kazakh d'origine kenyane Nora Djeruto, mais il y a aussi Werkua Getachew, l'Éthiopienne. Bref, il y a une concurrence énormissime, mais Alice ne fait que progresser. Alors elle a 31 ans, mais elle arrive sur le haut niveau très tard. Finalement, elle a déménagé en Espagne il y a 6-7 ans. Elle a commencé le très haut niveau à ce moment-là, à prendre au sérieux en tout cas d'athlée. Et elle ne fait que progresser, donc pourquoi pas en série. Elle a été vraiment très très impressionnante. Elle a déposé deux Éthiopiennes pour s'imposer dans sa série. Elle a un très gros finish. Elle le dit à chaque fois, il va falloir courir très intelligemment. Alors si c'est une course qui va très vite, qui arrive aux alentours des 9 minutes, on peut penser qu'Alice Finot n'a aucune chance à ce moment-là. Mais si ça court un tout petit peu moins rapidement, autour de 9-10, 9-15, et ben là, elle a toutes ses cartes.
C'est toujours différent, une course de championnat. Tu as raison de le signaler. Et pourquoi pas en croiser le doigt. On rappelle qu'on n'a toujours pas de podium, malheureusement, tricolore depuis le début de ces championnats.
Et toi, toute la frustration à Pion, parce que 200e, c'était catastrophique.
Exactement. Merci Aurélien, on le rappelle. Donc on va suivre Mélina Robert-Michon en finale du 10. Et puis on suivra également nos garçons dans les séries du 800 mètres masculin, notamment Benjamin Robert, le Toulousain, qui a été énorme.
Belle chance de
qui a remporté le meeting de Paris, donc en Diamond League. Donc,
et on se demande qui va ouvrir le compteur des médailles.
Ah ouais, ça fait peur. Exactement.
Heureusement, Kevin Mayer, c'est à la fin.
Ouais. Voilà.
Mais toujours cet espoir.
Mais on peut faire Fanny, champion du monde.
Ah oui, à Tokyo, on a
fait une médaille. Oui, clairement, oui.
Tu rentres pas, mon vieux, hein, si on fait Fanny.
Ouais. Okay. Ou alors, inscris-toi à l'arrache sur une course, ramène-nous une médaille.
Oh, non, vu son état physique, impossible.
Ouais, et je suis champion de France des médias du 200 mètres, Benoît, rappelle-toi de ça.
Ah ouais, bah ça.
J'ai ramené une médaille
là. Avec qui?
La concurrence, la
pression avec toi.
Quasiment. Franchement, quasiment.
Ah ouais, non, mais pour que tu sois champion de France des médias. Ah ouais, la concurrence, mais quelle horreur. Bon, bref. Merci Aurélien, bonne journée à toi et bon courage.
Merci.
Pour cette journée au championnat du monde d'athlétisme. 18h56. Il est là. Bah lui aussi, peut-être aurait pu être champion.
Ouais, moi non plus, je ne comprends pas si j'ai pas de victoire française. Rien du tout. Ah oui, je suis pas champion du 200 mètres. Ouais,
mais toi, t'es moins loin. Hein. Ça, c'est moins gênant.
Tu sais que si tu lui mets une ligne de départ, Christophe, et tu lui mets un buffet à 200 mètres,
méfie-toi.
Ah, ça dépend s'il y a Jean-Louis Tour en face de lui.
Ah ouais, la sacrée concurrent quand même.
Bon, Christophe, le programme de l'After Tour du coup.
Eh ben, on va revenir sur cette étape, cette victoire de Pogacar, une victoire un peu à la Pyrrhus. Il a gagné, certes, c'est son troisième succès sur les routes du Tour, mais il n'a repris que 4 petites secondes à son adversaire. A-t-il déjà abdiqué? On s'intéressera et on se posera la question. On reviendra aussi sur la course de Thibaut Pinot. Est-il vraiment l'équipier de David Gaudu? On peut se poser la question. On a l'impression qu'il est vraiment très perso sur ce Tour de France et il n'a pas su protéger son leader aujourd'hui. Et puis on reviendra aussi sur la belle perf de Romain Bardet qui s'est remis à l'attaque aujourd'hui après avoir subi vraiment une contre-performance hier. Enfin, on s'intéressera à l'étape de demain, dernière étape de montagne du Tour de France. Il faut renverser la table demain en direction de Takam.